Alors, gothique au Louvre-Lens, il y a plusieurs très bonnes raisons. D'abord, on est un lieu pour les grandes expositions de civilisation. Je rappelle que Renaissance était notre première exposition. Et aussi, notre région, c'est aussi une région de gothique. Le gothique naît entre la vallée de la Meuse et l'Île-de-France. On est la région des grandes cathédrales. Alors, j'en cite une, Amiens, mais on pourrait en citer beaucoup plus. Et on est aussi une région du néo-gothique. Donc, je trouvais que c'était une bonne raison de faire ce panorama. On sait aussi combien on est tous et toutes passionnés par le Moyen-Âge, ce grand patrimoine. Mais ce qui nous intéressait aussi, c'était de faire un grand voyage dans le temps, 1000 ans de gothique, du 12e au 21e siècle, parce que le gothique a marqué toutes les époques de l'Europe et de la France. Et ça, donc, ça nous permet de faire un voyage qui va, si je le dis un peu rapidement, de Notre-Dame de Paris à Gotham City, la ville gothique, la ville de Batman. Alors, on a 250 œuvres, ce qui est un chiffre exceptionnel. Et surtout, j'aurais souligné la grande qualité des prêts que l'on a. On a des œuvres incroyables du Louvre, un des plus gros prêts du département des sculptures depuis plus d'une dizaine d'années. Je dis parmi toutes les expositions qu'ils font. De très beaux prêts, des objets d'art, également des peintures, un prêt exceptionnel du Musée national du Moyen-Âge, Musée de Cluny. La Bibliothèque nationale de France nous a prêté aussi des livres, des manuscrits enluminés exceptionnels. Également la Cité de Charenton, ou encore un grand ensemble néo-gothique mobilier conservé, jamais séparé, qui nous vient du Musée des Arts Décoratifs de Strasbourg, qu'il a acquis l'année dernière. Et aussi, vous découvrirez beaucoup de nos grandes collections régionales, Arras, Amiens, Saint-Omer, je ne vais pas tous les citer parce que je vais les oublier. Et donc, c'est aussi des prêts très importants d'artistes contemporains qui aujourd'hui continuent de travailler le gothique, le médiévalisme, qui est vraiment un mouvement qui nous touche dans notre culture à la fois savante et populaire. Et également, j'ai oublié une très belle salle de cinéma. Le cinéma gothique, qui est une influence aussi de l'expressionnisme, des salles très différentes. Pour revenir sur la question de l'architecture de cette exposition, c'est une exposition qui se veut aussi immersive, c'est-à-dire qu'on est dans... Évidemment, on ne peut pas faire rentrer une cathédrale dans le Louvre-Lens, mais par contre, cette architecture de scénographie donne l'impression que l'on traverse aussi des architectures gothiques et également un souci de la période room. Quand je dis la période room, c'est notamment la salle du 19e siècle ou encore le salon d'un jeune goth d'aujourd'hui, avec de la musique, avec des cabinets de curiosité, avec des livres. Ça, c'est quelque chose qui nous a passionnés. Et aussi, évidemment, notre scénographie s'inspire de celle des cathédrales, avec deux grandes nefs et un chevet dans lequel, justement, on découvre pas mal de surprises. Ici, nous sommes notamment dans la salle sur l'écriture gothique, et où on apprend aussi que le mot gothique a lui-même une histoire assez singulière. Et c'est aussi un moment où on pose les questions que beaucoup vont se poser, c'est comment est-ce que gothique, si on parle à quelqu'un, si on faisait un micro-trottoir ensemble, eh bien, si on interrogeait 10 personnes dans la rue, il y en a certaines qui nous répondraient cathédrale, il y en a d'autres qui nous répondraient musique métal. Et comment ça se fait que tous ces termes se disent gothique? Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on aime raconter avec pas mal d'humour. Et donc, vous allez apprendre aussi quelques surprises sur le gothique.
Donc, l'art gothique a démarré avant le mot gothique. On pourrait peut-être savoir pourquoi ce mot s'est mis en place bien plus tard et quelles ont été les conséquences de ce décalage.
Alors ça, c'est une question très très intéressante de l'histoire du mot gothique. En fait, on s'aperçoit que tout au long du Moyen-Âge, du 12e au 16e siècle, alors que le gothique se développe, il ne s'appelle pas du tout gothique. Si vous posiez la question de comment s'appelle cet art à une personne du Moyen-Âge, si vous traversiez le temps, il aurait beaucoup de mal à vous répondre. En fait, le mot gothique apparaît au XVIe siècle sous la plume d'artistes que l'on connaît bien, l'artiste Raphaël, l'artiste Vasari, aussi Castiglione, donc des artistes de la Renaissance italienne, également Rabelais en France. Et à ce moment-là, promouvoir le retour à l'Antiquité, ils se mettent à critiquer l'art du Moyen-Âge en disant que c'est un art de gothique, donc un art de goth, un art de barbare. Et donc, en fait, c'est une insulte. Ça, c'est assez étonnant. Et progressivement, ce mot qui est une insulte va peu à peu devenir, au contraire, le mot qui parle du mouvement gothique et au contraire un mot très, quand vous dites gothique, vous pensez cathédrale, élégance, bien l'inverse des barbares.
Donc il y a aussi une écriture gothique qu'on reprit d'ailleurs. Hein, ceux qui veulent produire de la musique gothique, ils ont retrouvé cette écriture notamment pour signer leurs albums.
Alors on a une sorte de salle dans l'exposition sur l'écriture gothique, parce que l'écriture gothique n'a pas tout à fait la même chronologie que l'art gothique. Et on montre comment cette écriture s'est cristallisée dans les siècles de la fin du Moyen-Âge vers une lettre qu'on appelle la fracture, qui va rester très présente en Allemagne, moins dans d'autres pays, et qui a un retour en grâce assez fort aussi dans l'art des dernières années, comme vous le soulignez, notamment dans les t-shirts et l'écriture de métal. On la retrouve aussi dans la une de beaucoup de nos journaux, Le Monde, le New York Times, les journaux allemands, les titres sont en écriture gothique. Et je dois dire que si vous allez au supermarché, vous remarquerez aussi que l'écriture gothique est souvent celle des bières. Alors souvent en référence aussi au Moyen-Âge et à l'abbaye. Et donc c'est intéressant de voir que nous vivons encore dans l'écriture gothique, tout comme il n'est pas rare, peut-être la majorité d'entre vous, lorsque vous vous promenez dans nos rues, vous tombez sur aussi de l'architecture gothique.
Donc les Goths, c'est aussi un peuple, on va dire, hein, qui a peut-être fait peur. Est-ce qu'on ressent ça aussi dans l'inspiration artistique qui revendique d'être gothique ?
Alors, l'idée du gothique noir, du gothique sombre, naît à partir de ce qu'on appelle le roman gothique anglais au XVIIIe siècle, et notamment en Angleterre, parce que l'Angleterre a moins, du fait de son histoire, entretenu à son époque ses édifices médiévaux et gothiques. Et donc, il y a beaucoup de ruines. Et donc, un certain nombre de romanciers du XVIIIe siècle vont imaginer des romans d'aventures, de monstres, ce qui va donner aussi une histoire d'épouvante, et avec cette idée que le meilleur lieu, c'est la ruine gothique, la nuit. Peut-être que ce roman le plus connu de ce roman gothique, c'est notamment Frankenstein de Mary Shelley, dont on sait peu qu'il est aussi ancien, quand on voit combien il continue à être une référence très importante au XXe et XXIe siècle. Et c'est à partir de là que naît cette idée d'un gothique noir, d'un gothique sombre, ce que les anglo-saxons appellent le gothique, là où peut-être le XVIIIe et le XIXe siècle français vont parler plutôt de romantisme, de fantastique, nous parlons de gothique noir. Et donc, cette idée d'un gothique subversif, d'un gothique du monde de la nuit, d'un gothique d'une contre-société, c'est ce qui inspire jusqu'à aujourd'hui la contre-culture goth. Et à partir de la contre-culture goth, toute une partie de la pop culture contemporaine. Le héros gothique, notamment, c'est Batman, le super-héros qui naît en 1939. C'est le premier comics consacré à Batman. Et Batman, c'est un super-héros différent. Il est tourmenté, il est malheureux, il n'est jamais heureux de se battre. Et il vit dans Gotham City, la ville des gargouilles, et il est l'homme chauve-souris. Il a à peu près toutes les références du gothique. Mais cette référence de la chauve-souris, vous la trouvez dès Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt est considérée comme une des premières goths par les goths. Ou encore, une des grandes passions littéraires des goths, c'est Edgar Allan Poe et son corbeau. Donc il y a vraiment cette idée qui continue aujourd'hui dans les séries contemporaines. Hein. Citons Wednesday de Netflix, Buffy contre les vampires, tout petit peu plus ancien déjà. Avec cette idée que le héros gothique, c'est aussi un héros qui est différent, une héroïne différente. C'est-à-dire que c'est un héros ou une héroïne qui est tourmentée et qui aussi n'a pas les codes classiques de l'héroïne, le teint blanc, la discrétion, la différence, mais c'est un héros qui va affronter ses peurs, les monstres. Et en cela, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a une forme d'identification avec ce héros qui, parfois, a des difficultés qui nous sont proches.
En termes d'architecture, au début du gothique, il y avait sans doute le roman qui était bien installé. Qu'est-ce qui a fait la différence et pourquoi le gothique s'est développé et a duré dans le temps, c'est bien mis en place.
Une des grandes transformations de l'architecture gothique, c'est notamment bien sûr les arcs brisés. Et ces arcs brisés, c'est aussi la voûte. Donc en fait, c'est vraiment l'idée de cette création technologique. D'ailleurs, la création technologique de la voûte continue de marquer l'architecture. Hein. C'est ce qui permet en fait l'absence de mur, de passer les forces sur l'extérieur. Et c'est un grand modèle pour les gratte-ciels. Un de mes professeurs, Jean-Michel Legnaud, faisait toujours cette blague très explicite, qui est quelle est la différence entre une cathédrale et un gratte-ciel. Et en fait, la différence, c'est juste l'ascenseur.
C'est moderne, le gothique.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le gothique, c'est toujours moderne. Et en même temps, c'est toujours historique. C'est-à-dire qu'on regarde le passé Il faut bien citer Viollet-le-Duc, les grands chantiers de cathédrales, de restauration, Victor Hugo, Prosper Mérimée, qui est en même temps ce néo-gothique qui restaure les cathédrales. Il y a aussi un néo-gothique créatif qui donne un art décoratif propre. Et aussi, ce qu'on sait peu, c'est que par exemple, à Paris, la première église en ciment ou la première église en métal, en fait, ce sont des architectures aussi néo-gothiques. Donc en fait, il y a une forme de modernité très très forte qu'on voit aussi dans le cinéma, qu'on voit dans la contre-culture et qu'on voit très clairement dans la jeune scène contemporaine artistique. Beaucoup d'artistes, notamment français, européens, d'une trentaine d'années aujourd'hui, réinvestissent à la fois le gothique sombre et ce qu'on appelle le médiévalisme, c'est-à-dire l'imaginaire à partir du gothique, comme une manière aussi de répondre aux nos tourments actuels, à la crise, à la question de quelle est notre place et comment, de nouveau, on arrive à faire face à ces peurs et comment on les dépasse.